C'est une émission passionnante que réalisent nos collègues de DIN en liaison avec les archives départementales des Alpes de Haute-Provence, des plongées dans les archives très instructives et guerres de 14-18 obligent le directeur des archives Jean-Christophe Labadie et son adjointe Laure Franek ont évoqué cette période et l'action des bas alpins durant celle-ci. Dans l'émission du 19 avril, Jean-Christophe Labadie s'est penché sur le rôle des femmes durant la guerre.
Histoire d'archives sur Fréquence Mistral Digne-les-Bains, Jean-Christophe Labadie, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Alors aujourd'hui, dans votre émission Histoire d'archives, il sera question de femmes et la guerre pour la Première Guerre mondiale.
En effet, oui. Donc aujourd'hui, dans le cycle, hein, puisque c'est un thème qui revient souvent à cause du centenaire donc, de la Première Guerre mondiale, il m'a paru intéressant d'évoquer cette question justement des femmes durant la guerre et après la guerre, en ayant comme idée sous-jacente qu'il y a un peu une opinion commune que la guerre a participé donc à l'émancipation féminine. Donc c'était, je vous propose aujourd'hui donc d'examiner cette question à partir d'exemples évidemment basalpins pour voir ce qu'il en était réellement et pour voir comment était justement quelle était la place des femmes pendant la guerre, comment les hommes voyaient-ils les femmes, comment les autorités évoquaient-elles leur activité en remplacement des hommes et puis voir cette question de l'émancipation féminine.
Et contrairement à d'autres régions ou comme d'autres régions, les femmes à cette époque-là avaient une place prépondérante.
Alors en fait, les femmes, il faut bien se rendre compte que on est dans une société qui ne ressemble pas. Plus tellement, qui ne ressemble pas tellement à celle qu'on connaît aujourd'hui. En fait, évidemment, les choses sont assez classiques. Les femmes, en réalité, ne travaillent pas beaucoup. Elles sont plutôt cantonnées en fait à des activités familiales, s'occuper des enfants.
Vous allez dire cloîtrées.
Oui, j'allais dire cloîtrées en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu le cas hein, en fait, hein, puisqu'elles ne peuvent pas finalement avoir d'activités extérieures. En fait, vous avez raison de faire cette remarque parce que on peut dire d'une certaine manière que à la femme est réservée la maison et à l'homme est réservé le travail et l'extérieur. Vous voyez, hein, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais oui, c'est vraiment cette idée-là. Et quand on dit l'homme, lui, donc travaille, l'homme peut aller jouer aux cartes, oui, avec ses camarades, ses amis le soir. L'homme peut faire des activités de loisirs, etc. Et aux femmes, finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste évidemment la tenue de la maison. Il reste le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, le jardin. Hein, donc évidemment, le jardin, il faut le voir dans le cadre d'une économie domestique. Hein. Le jardin, ça sert à nourrir la famille. Vous voyez, ce n'est pas l'activité qui sert à faire vivre la famille hein, grâce à l'argent que procure la vente hein, de la production agricole, par exemple. Parce qu'il faut aussi rappeler que le département des Basses-Alpes est un département essentiellement rural. Et dans cette ruralité, évidemment, l'activité principale, c'est tout ce qui a trait à l'agriculture et à l'élevage. Hein, donc voilà. Donc c'est vraiment cette idée, en fait, cette vision hein, qu'il faut effectivement avoir des femmes. Alors après, il y a, en fonction des âges, évidemment, avant le mariage, les femmes du peuple travaillent au profit de couples plus aisés, par exemple en ville comme Bonne, oui, etc. Le temps de se constituer un peu d'argent pour pouvoir se marier, une petite dot, hein, comme on disait. Voilà, donc il faut se représenter dessiner cette image un peu de la femme avant la guerre. Et donc la question qui avait été posée par les historiens, c'était évidemment savoir si la guerre, avec les transformations qu'elle a entraînées, avec le fait que les hommes sont partis, la plupart des hommes jeunes, hein, de 20 jusqu'à 45 ans, voire un peu plus, ont quitté le domicile conjugal. Pour les plus jeunes, évidemment, ils ne sont pas encore forcément installés, donc c'est le domicile des parents. Et donc la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce que cette transformation radicale de la vie qui a été induite par la guerre a effectivement profité à l'émancipation féminine. Alors, quand j'étais à l'école, il y a assez longtemps maintenant, on apprenait, en fait, que la guerre avait été un facteur d'émancipation important pour les femmes. En gros, on disait le fait que les femmes étaient obligées de travailler pour remplacer les hommes a permis justement à ces femmes de rentrer de plein pied dans une activité économique, avec l'idée derrière que c'est par l'économie, l'activité économique, qu'on peut s'émanciper. Vous voyez, hein, c'est un peu... évidemment, c'est un... le raisonnement est un peu simple, mais c'est un peu l'idée, hein, l'idée générale qu'on développait il y a 30 ou 40 ans. Et puis depuis, les historiens ont quand même se sont remis, remis ce problème sur la table et se sont rendus compte qu'au fond, les choses sont peut-être un peu plus compliquées et qu'il n'est pas sûr qu'en réalité, les femmes soient sorties émancipées de la guerre et que peut-être même les choses ont été peut-être un peu plus dures qu'on ne le croit au retour des hommes, donc au moment de la démobilisation qui s'étale essentiellement dans l'année 1919, hein, puisque il faut le temps que les choses se fassent. Et puis surtout, je rappelle que le 11 novembre, c'est un armistice. C'est un armistice, ce n'est pas la conclusion de la paix. Donc il fallait les traités de paix. Et donc, à tout moment, l'Allemagne pouvait redémarrer, vous voyez, recommencer la guerre. Et donc c'est pour ça qu'on occupe l'Allemagne et qu'on garde sous les drapeaux des millions d'hommes. Hein, c'est très important de se rappeler cette donnée qui est fondamentale. Donc la question maintenant, donc, c'est de se dire... examinons le cas des femmes. Comment elles sont-elles perçues? Comment elles travaillent? Quel travail elles réalisent? Et puis, voyons après qu'est-ce qu'il en est au moment du retour des hommes. Et les historiens, pour faire court, se sont rendus compte qu'en fait, d'abord, c'est vrai, les femmes se sont mises au travail, ça j'en parlerai un peu après. C'est vrai que la vision des hommes a un peu changé, en particulier celle des autorités sur les femmes, mais que quand on regarde concrètement... ce qu'il en est en 1919, finalement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'éléments, j'allais dire, institutionnels, administratifs, qui feraient la preuve que ces femmes se soient vraiment émancipées, surtout quand on compare avec d'autres pays, où on constate que, finalement, sans la guerre, elles se sont émancipées beaucoup plus facilement.
Et déjà, il y a d'autres pays où elles avaient le droit de vote.
Exactement. En fait, en réalité, hein, c'est à la libération que les femmes obtiennent le droit de vote. Vous voyez. Alors, en réalité, alors c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, au retour de la guerre, l'Assemblée vote autorise
vous
les femmes à voter.
Vous parlez de l'autre guerre.
Non, la Première Guerre mondiale, mais le Sénat fait l'obstruction systématique et va empêcher. Que ce projet puisse aboutir. Oui. Donc c'est vraiment. Donc en fait, il y a. Oui, les choses sont un peu compliquées. D'un côté, il y a effectivement ceux qui veulent. Le problème du vote, c'est que des hommes étaient pour, évidemment, des hommes politiques étaient pour le vote des femmes, mais lié à cette question-là, cette question du vote aussi à l'émancipation économique des femmes et à l'émancipation surtout par rapport à leur mari, c'est-à-dire à l'égalité, l'égalité des droits. Vous savez, hein, jusque dans les années 70, que pour travailler, une femme devait demander l'autorisation de son mari. Idem pour ouvrir un compte bancaire, vous voyez. Et donc, les hommes politiques liaient cette question du vote à cette question-là. Voilà. Et tant que la première question n'était pas votée, il n'était pas question d'autoriser les femmes à voter. Vous voyez, c'était vraiment... c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que du coup, on ne sait plus trop... évidemment, tout freine, vous voyez, puisque l'un doit avoir l'autre et l'autre ne peut pas se faire sans l'un, vous voyez. Donc, c'était un peu... une situation un peu compliquée. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a transformé les choses. Mais la France est très en retard, en fait, hein, par rapport à d'autres pays européens, et même dans le monde, hein, quand on compare, y compris avec des pays un peu improbables, que a priori on pense que les femmes n'avaient pas le droit de vote. En fait, la France est très en retard. Et c'est pour ça que donc il est intéressant de revoir un petit peu quelles sont les conditions de vie des femmes pendant la guerre pour essayer de voir ce qu'il en est. Alors quand on regarde, bien, effectivement, les femmes sont fondamentales dans l'économie de guerre. Hein, le principe de la guerre de 14-18, hein, qu'on peut rappeler, qui est vrai aussi pour l'Allemagne, hein, c'est que c'est une guerre totale qui implique autant les combattants que l'arrière. Hein. Vous savez, il y a l'avant, hein, le front, on va dire, pour simplifier, le front occidental, parce qu'il y a d'autres fronts. Enfin. Et puis l'arrière, donc, la mobilisation de l'arrière. Et cette mobilisation de l'arrière, c'est qui? Qui reste-t-il? Il reste les vieillards. Alors qu'on appelle vieillards à l'époque, hein, qui ne sont pas forcément très âgés, hein, mais les gens âgés.
On était vieux avant l'heure.
Voilà. Les enfants, Il y a beaucoup de campagnes qui sont menées auprès des enfants grâce au relais des instituteurs et des institutrices. Donc les enfants, on les mobilise aussi. Et puis les enfants, ce sont des futurs soldats, donc c'est très important. Et ça, on l'avait déjà fait avant la guerre. Et puis il y a les femmes, la force vive en fait, hein, ce qu'il reste. Alors ces femmes, effectivement, vont entrer dans des pans d'économie qui n'étaient pas du tout les leurs à l'origine. C'est par exemple les industries de guerre. Pour faire la guerre en fait est très coûteuse en termes de matériel, en termes d'obus. Il faut, vous savez que c'est le canon qui est l'arme par excellence de la Première Guerre mondiale. Il faut donc une quantité considérable de munitions, et donc ce sont les femmes qui vont fabriquer ces munitions. Ça, c'est le premier point. Mais en fait, dès le départ, dès août 14, en fait, je rappelle qu'on est en pleine période des grands travaux agricoles quand même. Les femmes, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire ? On est dans une économie rurale, il y a besoin d'alimenter, de nourrir une population, et donc on va évidemment demander aux femmes de remplacer les hommes au champ. Alors, ce qu'elles faisaient un peu en réalité, évidemment, dans une économie rurale, durant la période des grands travaux, tout le monde était mobilisé pour travailler. Alors, c'est vrai que c'était plutôt les hommes qui faisaient des activités, on va dire, fatigantes, et les femmes étaient, le service support de ces activités, en préparant les repas, en facilitant, vous voyez, le travail des hommes. Là, pour le coup, ce sont les femmes qui vont se mettre au travail et qui vont donc faire cette activité agricole. Mais les hommes, pour autant, ne lâchent pas le morceau, car les hommes, évidemment, même au front, commencent à donner des conseils à leurs femmes. C'est-à-dire qu'en fait, de loin, ils essayent toujours de diriger l'activité agricole, qui est quand même fondamentale, évidemment. Et on a des lettres comme ça de poilus qui disent à leurs femmes, il faut faire telle chose, ne vends pas la jument, n'oublie pas de faire telle chose. Et, enfin, vraiment, on a les ordres, en fait, le commandement. L'homme ne veut pas lâcher cette prérogative qui est la sienne, qui est de diriger la maison, l'exploitation agricole. Donc vous voyez, donc déjà, la liberté d'action des femmes est relative. Il y a un deuxième point, c'est que les autorités, alors ça c'est vraiment les autorités, c'est le discours des autorités. Il y a le sous-préfet de Cassel qui signale quand même, en 1916 ou 1917, que les femmes sont épuisées. Elles ne sont pas faites pour les travaux fatigants, elles n'ont pas la force physique. Et comme ça fait quand même quelques années à ce moment-là, quand il écrit au préfet qu'elles ont cette activité, elles ont des difficultés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a les permissionnaires, les permissions agricoles qui sont installées très vite pour permettre à des poilus de venir prêter main forte au moment des grands travaux agricoles, et qu'on utilise aussi les prisonniers de guerre. Il y a dans le département des prisonniers de guerre allemands qui participent aux activités agricoles. Voilà. Donc il y a tout un système comme ça, de permissions agricoles, de prisonniers de guerre et même d'équipes un peu volantes, qui sont des soldats territoriaux, qui sont mobilisés, mais qui ne sont pas au front, qui servent effectivement à soutenir cette activité.
Et comment était vu l'apport de ces prisonniers allemands pour ces travaux agricoles par les poilus qui étaient au front ?
Alors, j'ai du mal à répondre parce que je dis on n'a pas plusieurs fois. On n'a pas j'ai pas de réponse à cette question pour les Basses-Alpes parce que on n'a pas de discours sur effectivement les prisonniers. On a quand même, vous savez, le problème des archives souvent, c'est qu'on a les problèmes sont évoqués quand les questions sont évoquées quand il y a des problèmes. Et il y a des problèmes avec les prisonniers allemands. Il y a un maire, par exemple, qui signale que on a des flirts. Oui. Il utilise d'ailleurs le mot flirt. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes hommes allemands ont tendance à vouloir un petit peu se rapprocher des jeunes femmes françaises qui, quelquefois, sont femmes de poilus. Oui, donc évidemment, ça pose problème. En l'occurrence, dans ce cas-là, il y a donc une enquête qui est diligentée par le préfet, parce qu'évidemment, c'est une question très importante, qui en fait débouche rien. En réalité, il n'y a rien. C'est simplement des rumeurs, des impressions. Voilà. Mais cette question est fondamentale, justement, de la relation entre ces femmes qui restent et ces hommes qui sont des jeunes hommes dans la force de l'âge et qui ont évidemment des tentations. Donc voilà. Donc il y a cette question-là. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les autorités, au moins les autorités, sont très attentives à ces questions de mise à disposition de prisonniers de guerre ou d'équipes agricoles, parce qu'elles ont bien conscience que c'est tout à fait nécessaire au maintien d'une activité agricole normale, enfin normale, entre guillemets évidemment, hein, mais disons d'un certain niveau. Et donc, les autorités sont très demandeuses de mise à disposition de ces soldats. Et on a beaucoup de courriers, hein, d'hommes politiques, de responsables administratifs, justement, pour essayer de récupérer le plus possible de main-d'œuvre pour aider évidemment aux travaux des champs. Car comprenez que c'est fondamental, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'on est dans un système de réquisition. Hein, donc le département doit fournir une certaine quantité de sa production pour l'effort de guerre. Hein, donc c'est très important d'être capable de pouvoir à la fois fournir les éléments pour la réquisition et puis aussi de nourrir la population. Et évidemment, vous avez cette question de la réquisition qui est très mal supportée par les maires et par les maires sont les relais en fait des agriculteurs qui supportent difficilement évidemment l'idée de fournir de dégager une partie de leur production pour l'effort de guerre.
Là nous sommes dans les Basses-Alpes, le front est loin. Pour faire venir ces prisonniers allemands, comment ça se passait ? Cela se passait-il ?
Alors en fait, très, très concrètement, c'est tout simplement des convois. Hein. Vous savez que la guerre de 14-18, c'est une guerre qui prend modèle sur la guerre aux États-Unis, donc dans les années 1860,
hein,
la guerre de sécession, où le train a une très grande importance. Hein. Donc en fait, on utilise beaucoup le train. Hein, dès la mobilisation, le train est le vecteur fondamental du transport des soldats, et les trains vont circuler durant toute la guerre. Et donc ces trains servent évidemment à la fois aux hommes, aux bêtes, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, hein, évidemment. Il faut aussi fournir des chevaux, des mulets, etc. à l'armée, qui est encore très largement hypomobile, et puis il faut fournir aussi des denrées, et puis à l'inverse, il y a les permissionnaires qui reviennent, les nouvelles troupes qui montent, chaque mobilisation des classes des jeunes gens, et puis donc évidemment l'arrivée des prisonniers. Donc alors, la vraie question en fait, c'est pas tellement comment ils arrivent, c'est comment ils sont logés, parce que on veut quand même éviter qu'il y ait trop de proximité, vous voyez, qui serait un peu inquiétante entre guillemets, et donc on fait en sorte que les logements soient indépendants, surveillés, vous voyez, pour éviter tout problème de relations un peu intimes entre ces jeunes soldats allemands et les femmes françaises, en particulier quand ce sont des épouses de poilus. Voilà. Donc les autorités veillent à la vertu des femmes. Voilà. Et à celle aussi donc des hommes, des prisonniers. Voilà, donc c'est vraiment plutôt cette question-là. Voilà. Et donc c'est pour vous dire que la vision qu'ont les autorités, elle est très enthousiaste par rapport à la question du travail des femmes, évidemment. Vraiment, on a beaucoup de courriers qui signalent justement cet engagement des femmes pour soutenir la production et en même temps les limites, vous voyez, de cet engagement, compte tenu du fait que, n'ont pas forcément toujours les compétences, et deux, elles n'ont pas la force physique dans les activités agricoles, qui encore, même s'il y a un peu de mécanisation, entre guillemets, c'est quand même encore la force des bras qui est la donnée fondamentale.
Là, l'apport des femmes est au niveau de leur investissement. Dans d'autres régions françaises, il y avait les industries. Dans notre département, hormis le fait de travailler au champ, est-ce qu'il y avait des endroits où elles pouvaient apporter quelque chose d'elles-mêmes par rapport aux industries, que ce soit pour l'aviation, pour les obus?
Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une question intéressante parce que, effectivement, dans le travail industriel, les femmes ont remplacé les hommes, dans beaucoup de domaines, en fait, et les transports, etc. Et effectivement, après la guerre, quand les poilus vont revenir, la question, c'est alors évidemment la production de guerre, évidemment, va se réduire de fait. Mais la question, c'est effectivement que vont devenir ces femmes. Alors en fait, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que dans les métiers les plus qualifiés, les hommes vont remplacer les femmes. En revanche, dans les métiers très peu qualifiés, les femmes vont rester. Les hommes ne préférant pas, évidemment, n'ayant pas envie d'occuper ces métiers. Donc en réalité, pour prendre un terme un peu que tout le monde va comprendre, en fait, on a créé une sorte de prolétariat féminin. C'est-à-dire que la guerre, vous voyez, les hommes reviennent, prennent les bons métiers, on va dire, et laissent aux femmes les métiers peu qualifiés, peu payés. Hein, et donc finalement, vous voyez, c'est pour dire que les choses sont... certes, les femmes ont mis un pied dans le travail, et en particulier donc le travail industriel, qui est quand même très important, mais... quand les hommes reviennent, elles perdent les parties les plus intéressantes hein, et conservent les choses finalement que personne ne veut. Quoi. Donc vraiment, on crée une sorte de prolétariat. En fait, les femmes investissent surtout un secteur qui est le secteur qu'on appelle tertiaire, vous savez. Hein, voilà. La guerre, en fait, va créer la secrétaire. Hein, dans les préfectures, par exemple, à Digne, le préfet donc recrute. Hein, et on est, il y a un recrutement assez important d'agents. Parmi ces agents recrutés, ce sont essentiellement des femmes. Il y a quelques hommes, mais surtout des femmes. Le préfet fait un discours un peu plus tard au sujet de ce recrutement et dit contrairement aux idées reçues, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, finalement, les femmes travaillent très bien. Voilà, c'est vraiment... Oui, c'est intéressant. Hein. Voilà. Vous voyez, l'image qu'on peut... c'est une source d'étonnement, quoi, vous voyez. Hein, donc, voilà. Et il le dit en toute honnêteté, vous voyez, vraiment, il est tout à fait heureux de le dire, vous voyez. Il dit, voilà...
Il traduisait ce que beaucoup de pensaient aussi.
Exactement, bien sûr, et beaucoup étaient très sceptiques en fait hein, sur justement est-ce que les femmes allaient être capables, voilà. Et donc ce recrutement en fait qui concerne donc des femmes, ce sont pas des chefs de bureau hein, évidemment, hein, les chefs de bureau ce reste des hommes, hein, mais ce sont des secrétaires. Donc vraiment la guerre crée cette catégorie des secrétaires dans le tertiaire. En particulier dans l'administration, où elle c'était déjà un peu, hein, il y avait déjà des femmes, évidemment. Hein, mais là, elle rentre massivement et, dans les bureaux de la préfecture. On a des photos, on a deux photos, trois photos. Hein, enfin, une photo d'un bureau de la préfecture et une photo qui montre tout le personnel de la préfecture. Alors, évidemment, devant les hommes, derrière les femmes, forcément. Et puis, par ailleurs, devant des hommes plutôt mûrs, compte tenu du fait que les hommes en âge de faire la guerre sont évidemment... à la guerre, et derrière des femmes très jeunes qui viennent de rentrer, vous voyez. Enfin, c'est vraiment, on a vraiment la photographie de ce qu'est en fait une préfecture après quelques années de guerre. Voilà. Donc pour vous dire, c'est intéressant. Le secrétaire général fait lui aussi des discours, je crois, aux jeunes filles lors d'une remise des prix. Alors lui, il dit, vous avez été admirables, évidemment, les femmes, etc. Mais il va falloir revenir. Après la guerre, oui, il anticipe déjà, parce qu'on est encore pendant la guerre, il anticipe déjà, après la guerre, il faudra revenir quand même aux choses fondamentales qui sont celles des femmes. Et juste avant de faire peut-être notre pause médicale, j'ai déjà évoqué donc cette question des femmes, et j'utilise toujours une... Pour bien expliquer en fait la situation, je montre une affiche qui a été publiée en 1920, hein, qui est intéressante parce qu'elle montre, quoi ? Alors, elle s'appelle en fait l'emprunt de la paix, hein, puisque vous savez qu'il y a des emprunts de la guerre tout le long de la guerre, et puis donc évidemment il faut reconstruire la guerre, et donc c'est une image de reconstruction. Et que voit-on ? On voit au deuxième plan, hein, le plan le moins important, on voit un paysan avec sa charrue en train de labourer, on voit derrière des usines en train de redémarrer leur activité, on voit des hommes en train de construire des maisons, et qu'est-ce qu'on voit devant ? On voit une femme avec un nourrisson dans les bras, presque en train d'allaiter, et une petite fille à côté. Vous voyez, en fait, en gros, cette image dit quoi ? Elle dit aux femmes, les enfants, donc le retour à la maison, aux hommes, la reconstruction, l'activité agricole, l'activité industrielle. Voilà. Alors, pourquoi cette image-là ? Parce que c'est très important. La guerre, évidemment, a rendu la France exsangue. Hein, 1,3 million, 1,4 million hommes tués. Beaucoup de mutilés, hein, beaucoup de blessés et de mutilés, beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, et une démographie totalement déclinante. En fait, pour comprendre en fait, la situation, il faut se rappeler que la France est un pays qui était l'un des pays les plus peuplés en Europe au moment, lors de la Révolution française. Et qui finalement n'a fait que décliner. Alors on n'a pas perdu de population, mais sa population a très peu augmenté par rapport à tous les autres pays européens qui ont vu l'explosion de leur population, avec un phénomène qu'on appelle, que je ne vais pas expliquer, qu'on appelle la transition démographique. En gros, la mortalité chute avant la natalité. Donc pendant cette période où la mortalité tombe alors que la natalité reste forte. Évidemment, il y a un accroissement démographique, un accroissement naturel hein, qui est très très important. Or, la France, depuis le XVIIIe siècle, voit ses courbes de mortalité et de natalité descendre quasiment en même temps, donc avec un accroissement naturel qui n'augmente pas. Ce qui fait qu'il faut se rappeler aussi qu'en 1914, la France est beaucoup moins peuplée que l'Allemagne et qu'en 1918, elle a une population qui est inférieure à celle de 1914, puisqu'elle a perdu des hommes. Et puis qu'il y a eu, je crois que la natalité a été divisée par deux pendant la guerre, hein, parce que il y a eu très très peu de naissances. Et quand on regarde bien le cas de l'Allemagne, l'Allemagne va reprendre une vitalité démographique dans l'entre-deux-guerres, ce qui fait que quand en 1939, on se retrouvera dans une situation qui est encore une situation totalement déséquilibrée, avec une France à 40 millions d'habitants, à peu près, 39-40 millions d'habitants, ce qui était la population, grosso modo, de celle de 14, alors que l'Allemagne, elle, a retrouvé son niveau démographique. Donc vraiment, cette question nataliste est fondamentale, hein, qui explique d'ailleurs aussi beaucoup de choses dans l'entre-deux-guerres, et aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la politique de Pétain, hein, vis-à-vis de la famille, hein, qui est une donnée fondamentale, en fait. Hein. Eh bien, cette image-là, on l'a déjà en 1920, vous voyez, elle est déjà montrée en 1920, aux femmes, aux femmes, c'est faire des enfants. Voilà, j'évoquais donc, juste avant notre pause musicale, donc la poilue de l'arrière, car on a aussi employé ce terme, hein, on avait les poilus à l'avant et on avait la poilue, donc la femme hein, mobilisée à l'arrière. Et je voudrais juste faire une petite citation, hein, un extrait d'un discours du préfet Valette en 1917, hein, qui écrit, donc qui dit en fait, hein, à des femmes d'ailleurs, la paix venue, les femmes et les jeunes filles aideront à guérir les plaies que l'ennemi nous a faites. Elles seront les fées bienfaisantes qui apporteront à la France triomphante le bonheur et la prospérité. Vous voyez, c'est vraiment... là, évidemment, il anticipe, hein, on est en 1917 et les choses ne sont pas gagnées du tout, mais c'est vraiment pour rappeler qu'elle... pour évoquer, évidemment, quelles sont les représentations qu'ont les hommes quand ils parlent des femmes. Et dans ces représentations, en fait, le modèle, j'allais dire, le plus classique de la guerre, c'est l'infirmière. Hein, c'est-à-dire, c'est, en fait, c'est la femme consolatrice. Hein, la femme, comme dit le préfet, celle qui guérit les plaies, mais là, qui les guérit au sens propre, hein, celle qui aide, hein, qui aide les hommes à supporter la blessure, l'éloignement, la souffrance. Et on a beaucoup d'images comme ça, hein, où les femmes sont magnifiées, hein, dans ces costumes d'infirmières, hein, ces costumes blancs à l'infirmière. Le magazine L'Illustration utilise beaucoup ces clichés, en fait, hein, et montre dans une de ses livraisons une femme, donc une infirmière, hein, donc avec sa tenue d'infirmière, et le sous-titre c'est le voile laïque, hein, la femme qui prend le voile laïque. Hein. En fait, vraiment, vous voyez, les femmes sont au service des hommes, hein, et donc elles sont dans ce rôle traditionnel, hein, de soutien moral. Et on a une autre image aussi, toujours, où on voit une femme assise sur un lit à côté d'un blessé qui lui fait la lecture, vous voyez, la lecture de la presse, pendant que le blessé, lui, lit sans doute une lettre adressée par son épouse. Voilà. Et donc, et on a une image du bonheur, vous voyez, c'est vraiment... c'est vrai qu'il faut voir aussi le contexte. Hein. L'autre image, c'est la Madelon. Hein, la Madelon, hein, les chants. Alors, il y a toute la tradition grivoise, hein, du service militaire, hein, qui, je rappelle, faisait les hommes. Hein, c'était une étape très importante, un rite d'initiation. Hein, quand on était bon pour les services, on était bon pour les filles, vous voyez. Hein, donc, c'est vraiment très important à partir de la fin du XIXe siècle dans l'imaginaire des jeunes gens, hein, des classards, en fait, hein, des gens. Ils partaient faire leur service militaire en fonction de leur classe, donc leur année de naissance, puisqu'ils faisaient quand ils avaient 20 ans. Et donc on a cette tradition grivoise, hein, qu'on retrouve dans les chants hein, un peu légers, on va dire, hein, où la femme, en fait, c'est celle qu'on séduit. C'est pas la séductrice, hein, c'est celle qu'on séduit. Hein, c'est l'homme qui a l'initiative. Hein, ce n'est pas la femme, évidemment. Hein,
surtout
voilà,
pas.
Surtout pas. Voilà. Hein, donc voilà, c'est toujours ça, tout vient de l'homme, en fait. Hein, donc le jeune soldat séducteur, vous voyez, qui séduit la jeune fille à la sortie de la caserne, vous voyez, enfin on a tout ces, voilà. Et puis donc la Madelon, hein, la Madelon qui va nous servir à boire, hein, sous la tonnelle avec ses blancs jupons, vous voyez, donc on a toute cette tradition, en fait, à la fois de la fille légère, hein, pour le coup, hein, parce que c'est la tradition grivoise, et en même temps de cette femme investie d'une mission, qui est donc l'infirmière. Et l'infirmière, d'ailleurs, on va dire, canalise tous les fantasmes, enfin, hein, vous voyez, c'est à la fois la femme bien faite, c'est un substitut, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est à la fois la mère, hein, évidemment, c'est aussi l'épouse, la fiancée, hein, mais c'est aussi celle qui soigne. Vous voyez, donc voilà, hein, il y a tous ces aspects qui sont regroupés. C'est pour ça que c'est une figure très très importante de la guerre. Hein, voilà. Et quand on dit, quand je parlais tout à l'heure de l'investissement des femmes dans la guerre, on a parlé du travail, mais il y a aussi, et c'est fondamental aussi, cette question de soigner les corps, hein, à défaut de soigner les âmes. Les femmes, dès le début de la guerre, hein, on a beaucoup de courriers qui sont adressés à la préfecture, aux autorités préfectorales, pour demander à pouvoir entrer dans une société de la Croix-Rouge, hein, puisque c'est en fait le système de la Croix-Rouge, auxiliaire du service de santé militaire, hein, pour pouvoir participer à sa manière à l'effort de guerre. On a un courrier, je pense à un courrier d'une femme qui écrit en disant, voilà, mes deux frères sont mobilisés, et moi-même, je voudrais participer à cet effort. Hein. Il n'y a pas, en fait, en gros, il n'y a pas de raison que ce soit seulement les hommes. Moi-même, je peux aussi apporter ma pierre, hein, à l'édifice, hein, qui est celui du combat contre l'Allemagne. Vous voyez, voilà. Donc tout ça est très important. Hein. On a le travail, mais on a aussi l'investissement. Le travail des femmes, on le trouve aussi dans le support. Alors c'est très traditionnel, hein, puisque évidemment les fonctions d'assistance, hein, étaient réservées aux femmes, et on le retrouve aussi dans ce qu'on appelle les ouvroirs, c'est en fait fabriquer des vêtements. Donc on a des ateliers, des petits ateliers de confection comme ça qui sont mis en œuvre souvent par la Croix-Rouge, hein, mais aussi par des bénévoles, pour fabriquer des châles, des vêtements, des bonnets, ben, oui, pour supporter les hivers évidemment qui sont très très difficiles dans les tranchées.
Et pour les habits des soldats,
oui,
c'est
oui.
Pareil.
Alors ça c'est différent. Les habits des soldats, c'est vraiment ça c'est de l'industrie, hein, c'est vraiment industriel. C'est vraiment dans les petites choses en plus, vous voyez. Pour aussi envoyer des colis. Hein, rappelez toujours que il y a une correspondance très forte entre l'avant et l'arrière et dans les deux sens. Hein, je crois qu'on n'a jamais autant échangé de courriers et de colis, des colis qui servent évidemment à améliorer l'ordinaire. Et puis on a le système des marraines de guerre aussi, vous voyez, donc les femmes qui écrivent à des hommes qui choisissent, totalement inconnus, hein, et qui créent des liens comme ça, quelquefois même un petit peu sentimentaux. Hein, je dis, c'est vraiment des substituts, hein, où elles essaient de réconforter, en fait, hein, ceux qui sont un petit peu isolés, vous voyez, ceux qui se sentent un peu seuls. Et on a le système des marraines de guerre. On a des jeunes filles, hein, qui n'ont pas marié et qui finalement vivent par procuration, d'une certaine manière, une aventure qui n'est pas amoureuse, mais une aventure sentimentale, hein, pour un peu fleur bleue, vous voyez. Hein,
une bluette.
Une bluette, exactement, une bluette. Voilà. Donc on a aussi tous ces phénomènes, hein, qui apparaissent. Et donc la question, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe quand les hommes reviennent? Et quand les hommes reviennent, ben, ils reprennent leur place, évidemment. Ils reprennent leur place au foyer. À la maison, eh bien, la femme, elle est renvoyée à sa fonction initiale, à sa place initiale, qui était celle d'avant la mobilisation du 14. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier point. Pour l'industrie, je l'ai évoqué, hein, souvent les hommes reprennent les bons métiers, laissent les femmes aux femmes les tâches les moins intéressantes, les plus répétitives et les moins, évidemment, lucratives. Voilà. Il y a aussi la question pour les femmes du mariage. Alors, puisque c'est, hein, vous savez que la finalité sociale, c'est le mariage, l'installation, le mariage. Et en revanche, on constate à cause de la guerre, j'allais dire grâce à la guerre, mais à cause de la guerre, que finalement, il va y avoir une sorte de brassage social. Les femmes vont aller chercher des époux, pas forcément beaucoup plus âgés qu'elles, ce qui était plutôt le cas avant. Pas forcément dans leur milieu social. Donc il y aura une sorte de brassage. Hein. En fait, finalement, l'émancipation va se faire de cette manière-là. Vous voyez, ce ne sera pas une émancipation politique, administrative ou institutionnelle. Ce sera plutôt une émancipation sociale. Vous voyez, donc ça, effectivement, c'est un élément important. Il y a évidemment les mentalités qui ont changé. Les femmes qui ont eu des responsabilités, forcément, même si on veut les renvoyer elles ont vieilli. Elles ont grandi, elles ont eu d'autres activités, elles ont évidemment des ambitions différentes. Donc ça, c'est un élément important. Il y a beaucoup de femmes aussi, comme je disais, qui vont se retrouver isolées. Les veuves, Donc il va falloir vivre sans mari, oui, sans l'aide, hein, qui était celui, le chef de famille, oui, on l'appelait le chef. Hein. C'est frappant, hein, quand vous regardez les recensements, hein, de l'avant-guerre ou de l'après-guerre, vous avez la fonction, vous savez, on a la personne, donc c'est par rue, par maison, enfin par lieu évidemment, par commune, ensuite par lieu, par maison et par ménage. Et dans le ménage, évidemment, quand on a une famille, je veux dire, ordinaire, on a un homme, une femme, des enfants, et on a l'homme en premier, marqué chef. Vous voyez, voilà, donc c'est le chef de famille. Vous voyez, donc il y a aussi les femmes qui vont vivre toutes seules, qui ne pourront pas se remarier parce qu'il y a évidemment beaucoup de morts, et donc il y a un déficit. Hein. On parle de chasse au mari, vous voyez, en 1919. C'est-à-dire que les femmes, évidemment, alors il y a une sorte de rattrapage, évidemment, il y a eu peu de mariages pendant la guerre, je vous l'ai dit, il y a eu peu de naissances, hein. La natalité a été diminuée, je crois, par deux, divisée par deux, mais il y a une sorte de chasse au mari. Et on a une institutrice qui écrit, qui est célibataire, et qui dit, mais autour de moi, toutes mes amies, vous voyez, toutes celles avec qui j'étais à l'école normale, ne pensent qu'une chose, c'est à se marier, vous voyez, hein, comme s'il fallait rattraper le temps perdu, comme si aussi on revenait dans une vie normale, hein, on régularisait les choses, voilà. Voilà, donc je pourrais en parler encore évidemment longtemps, peut-être qu'on évoquera une nouvelle fois cette question.
Avec plaisir.
Je voudrais juste évoquer très rapidement notre programme du mois de mai, parce qu'on a un programme qui est très chargé, avec des conférences, des lectures d'archives, et même une lecture musicale. Alors je vais vous le détailler, hein, je crois qu'il nous reste quelques minutes. Le 8 mai, donc une conférence à Fort-Calquier à 18h, qui est donc en lien avec la guerre, mais qui concerne en fait... la rafle des Juifs à Fort-Calquier, donc en août 1942. Alors c'est une rafle qui est bien documentée, on la connaît bien parce que on a les archives de la préfecture, mais aussi celle de la sous-préfecture, qui nous montre bien comment cette rafle a été organisée et mise en œuvre. Et puis on a aussi le cas d'une famille, de Juifs allemands, dont une partie a été arrêtée au cours de cette rafle, qui est la famille Grève. Qu'on connaît aussi grâce à un petit ouvrage qui a été publié par un Allemand qui s'est intéressé justement à un de ces grèves, qui a survécu à la guerre, l'un des rares de la famille, et qui raconte son itinéraire, vous voyez. Et donc du coup, c'était très frustrant quand on travaillait sur cette famille parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé après août 42, parce qu'une partie de la famille a pu s'échapper. Et grâce à ce témoignage, on sait maintenant ce qui s'est passé. Voilà, donc ça sera évoqué lors de cette conférence. Le 17 mai, une lecture d'archives à Aiglun, dans le thème de la vie rurale. On a commencé déjà aux archives départementales il y a, je crois c'était il y a 3 semaines, on avait fait une lecture d'archives, on a eu 87 personnes, hein, pour cette lecture, on a dû pousser les murs, hein, pour que les personnes puissent suivre cette lecture. On espère que donc à Valensole, c'est à la chapelle Saint-Maïeul, on est autant de personnes. Une autre lecture d'archives le 18 mai, cette fois-ci c'est Histoire d'Aiglun, par les élèves des cours élémentaires et moyens. Donc là ce sont des enfants, hein, qui vont lire, hein, donc qui vont lire cette lecture. Et puis une autre lecture le 24 mai. Alors j'insiste sur celle-ci parce que c'est une lecture musicale. Hein, donc on a à la fois une lectrice donc, hein, qui lira des textes et de la musique en lien avec Mai 68. Hein, ça s'appelle Mai 68, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Hein, et puis donc avec piano, violon et violoncelle. Une conférence le 26 mai à Viens. Donc là, on est plus dans le département, mais on est vraiment aux limites du département, hein, puisqu'on est en Vaucluse, sur la répression des Juifs dans les Basses-Alpes. Une autre conférence en lien avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ça sera le 31 mai aux archives départementales avec Gérard Guerrier, qui a publié un ouvrage récemment sur la résistance des gens ordinaires dans les vallées de Verdon et de Lubail. Et c'est tout pour le mois de mai, hein, ce qui est donc, je pense, un programme tout à fait dense. Et on espère qu'évidemment, beaucoup de personnes viendront assister à ces événements. Voilà.
On se retrouve le 17 mai.
Très bien. Bah écoutez, au 17 mai, donc, Jean-Marc. Et donc, à bientôt.
À très bientôt, Jean-Christophe.
Au revoir.